Donc voilà, nous allons donc continuer ce que nous avons commencé. Nous allons donc commencer par, nous allons continuer le Likutey Moharan, et nous en sommes arrivés, c'est au milieu de la Torah qui s'appelle Ra'iti Menorat Zahav, c'est le chapitre Chet, et il est question là-bas, je rappelle très rapidement. Il s'agit d'abord des soupirs, les soupirs qui font que grâce aux soupirs, on amène un surplus de souffle, ruach. Ce surplus de souffle nous relie au tzaddik auquel on est lié. Le tzaddik lui-même est conscient, disons de manière diffuse, des soupirs de ceux qui sont liés à lui. Et ces soupirs font que l'on peut finalement dominer. C'est comme ça qu'on peut se rattacher à la Torah se trouve chez le tzaddik, et c'est comme ça que l'on peut réussir ses entreprises. Le problème, c'est que les Rechaïm aussi réussissent, c'est qu'ils ont également un rav à eux, ce qu'on appelle rav des Klipa, c'est-à-dire le rav qui est du côté de l'écorce, c'est-à-dire des côtés des forces du mal qui sont comparées à des écorces de fruits. Et pour pouvoir les vaincre, cette écorce, ce rav des Klipa, qui est comparé à Essav, qui est comparé à la couleur rouge, on le verra par la suite, eh bien, il faut pour cela être un tzaddik gamour. C'est quoi c'est-à-dire si on n'est pas vraiment un tzaddik gamour, il ne faut pas s'attaquer aux Rechaïm. C'est quoi le tzaddik gamour? C'est celui qui s'est totalement détaché des quatre mauvaises midot, c'est les quatre mauvaises midot qui sont liées aux quatre éléments terre, eau, air et feu, qui sont quatre défauts de la personnalité, quatre mauvais caractères. Et qui, à l'origine, découle des quatre lettres du nom de Dieu, Yud Ké Vav Ké, mais qui, quand elles descendent dans notre monde, entrent en décadence. Et cette décadence fait que ça devient le mal. Si le tzaddik est un tzaddik gamour, c'est-à-dire qu'il n'a aucune appartenance à ces quatre défauts, eh bien, dans ce cas-là, il peut s'attaquer au rachat. Sinon, il ne le peut pas parce qu'il est influencé dans sa lutte contre le rachat par le mal qu'il y a déjà en lui. Même si c'est un mal qui n'a pas été appliqué, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un tzaddik, le tzaddik ne fait pas le mal, mais il peut avoir une tendance au mal, il risque de faire le mal, donc il vaut mieux qu'il ne s'attaque pas au rachat. Voilà, c'était là que nous en sommes arrivés, c'est au milieu du paragraphe T. Alors, je rappelle, c'est un peu plus bas, voilà, qui est Vezeu Sheamru Rabotenu. Voilà, très très bien. Vezeu Sheamru Rabotenu Zichronam Livracha. C'est pour ça que nos sages ont dit, ils ont posé la question, Veha Ketiv Al Titharba Miriim, n'est-il pas dit qu'il ne faut pas s'attaquer à ceux qui font le mal? Michelibo nokfo omerken. Ceux qui disent qu'il ne faut pas s'attaquer à ceux qui font le mal, ce sont ceux qui se sentent concernés. C'est-à-dire, ils disent qu'il ne faut pas s'attaquer au mal parce qu'ils savent très bien qu'il y a du mal en eux. Donc, ils seront attaqués eux-mêmes. Piresh Rashi et le commentaire de Rashi, Ayare me'averot shebeyado, celui qui a peur des transgressions qui sont dans sa main. Alors là, nous avons ici une interprétation de Rabbi Nachman. Ça veut dire quoi? Chez Beyado, qui sont dans ses mains. Le mot Beyado en hébreu signifie également dans sa capacité. Par exemple, comme dit le Premier ministre quand il présente sa capacité de former un gouvernement, il dit Ala Beyadi. Cela est dans ma capacité. Yad signifie donc être capable. C'est quoi donc Ayare me averot chez Beyado? Chez Beyado daika. Il faut préciser justement Beyado, Zeche Amarnu, C'est ce que nous avons dit, qui bémet et lo shum avera, qu'en vérité, il n'a aucun péché. Rak shu yare adain ma'averot, mais il a peur des transgressions, chez beyado vekocho la'asot, qu'il est capable de faire. C'est-à-dire, il se dit qu'il est éventuellement, il va être amené à faire des averot. Ki ara adain bechoar, parce que chez lui, le mal est encore en puissance. Parce qu'il n'est pas encore arrivé, il s'agit d'un tzaddik qui n'est pas encore arrivé au niveau de, où le tzaddik ne connaît aucun mal. Il n'est pas encore sûr qu'il ne lui arrivera pas de trébucher dans une transgression, que Dieu nous en préserve. C'est pour ça qu'il n'a pas le droit de s'attaquer au Rechaim, comme nous l'avons dit plus haut. C'est-à-dire, c'est la différence, la distinction qu'établit Rabbi Nachman entre le tzaddik gamour et le tzaddik sheno gamour. Le tzaddik qui est totalement détaché du mal, qui lui peut et même doit s'attaquer au Rechaim, tandis que le tzaddik qui n'est pas entièrement libéré de l'influence du mal ne peut pas s'attaquer au Rechaim. D'ailleurs, ça explique pourquoi vous avez chez les tzaddikim, on peut le voir aujourd'hui aussi, Il y a des tzadikim qui préfèrent ne pas confronter les forces du mal et qui préfèrent se retirer derrière une forteresse, et tandis que d'autres, au contraire, se disent, prenons le taureau par les cornes et attaquons-nous au mal. Veseu, c'est pour ça qu'il est dit, Taharish kebala racha tzadik umenu, tu te tais lorsque le méchant engloutit quelqu'un qui est plus juste que lui. Ve'amru rabotenu, et nos sages ont compris, zichrona livracha, tzadik mimenu bolea. C'est-à-dire, si le tzadik est seulement plus tzadik que lui, il peut l'engloutir. Si c'est un tzadik absolu, le méchant ne peut pas l'engloutir. Bolea daika, c'est quoi l'engloutir véritablement? Kihu bolea otomamash, barichat aruar shelo, shu gadol bechato, car il peut véritablement l'engloutir par la longueur de souffle qu'il possède lorsqu'il est grand en son temps. C'est-à-dire, le rachat a la capacité, il bénéficie d'un délai important, arichut ruar, qui lui permet de grandir en son temps, aval tzadik gamour et nobolea, mais il ne peut pas engloutir le tzadik qui est total. Oui, qu'est-ce qu'il y a, David? Qu'est-ce qui se passe?
Arav, un humain peut vraiment être tzadik gamour?
Oui, on peut tout à fait être tzadik gamour, c'est-à-dire en avoir fini avec son yetzer hara. C'est tout à fait possible. C'est le cas de certains tzadikim, comme par exemple le roi David, qui disait Libi halal bikirbi, mon cœur est vide en moi. C'est, il est vide de son yetzer. C'est tout à fait possible. Il faut être optimiste. C'est-à-dire, souvent, on peut entendre des discours de Moussar qui nous disent le yetzer nous guette à tout moment, etc. Il faut savoir qu'il y a une stratégie psychologique du judaïsme qui dit que le yetzer peut être dominé. Kien libo nokfo, mais hashash mirshol avira kanal, car le tzaddik gamour n'est pas inquiet du risque de la chute dans le péché, qui kvar bitel ara le gamre, parce qu'il a déjà annulé totalement son mal. Mikol amidot vataavot shel kol arba yesodot, de tous les caractères et de toutes les tentations des quatre éléments. Ve'alken ze tzaddik gamour. Et donc, c'est pour ça que ce tzaddik est entier. Chol anilvim elav, et tous ceux qui sont associés à lui, mutarim litgarot bareshaim, ont le droit de s'attaquer au reshaim. Alors là, vous avez ici un chidouche. C'est que non seulement le tzaddik lui-même peut s'attaquer au mal, mais également ses chassidim, c'est-à-dire les adeptes du tzaddik, peuvent également participer à la lutte du tzaddik. Kizé a tzaddik, car ce juste-là, Yachol l'ered, les tor kol atzinorot, shel kol amidot raot shelahem. Parce qu'il peut descendre dans toutes les conduites de tous les mauvais, de tous les défauts qu'ils ont, Shigbiru alatzma, mulshabra, mulvatelam, qu'ils ont laissé grandir, il peut les briser et les annuler. Valier des ais, et c'est ainsi que hu mashpil reshaim ade aretz, qu'il abaisse les méchants jusqu'au sol, kanizkar leel, comme l'avons dit plus haut. Si on avait rappelé que mashpil reshaim ade aretz, si vous vous rappelez, ce sont les initiales mem, resh, ein, alef, qui sont les initiales des quatre éléments en hébreu. Voilà, donc nous avons ici une différence entre le tzadik gamour et le tzadik sheno gamour, et maintenant nous avons besoin donc d'instructions. Les instructions, c'est comment faire pour devenir le tzadik gamour, ou comment faire pour s'attacher au tzadik gamour. Y a-t-il du positif dans les quatre éléments, me demande Félicia. Alors évidemment, j'étais tenté d'en parler, mais je me suis retenu. Effectivement, ça veut dire quoi? Dominer le rachat, s'attaquer au rachat. Alors ça peut être de manière destructive, c'est-à-dire on va détruire le mal ou détruire le rachat. Ça peut être également le détruire en l'élevant. C'est ce que faisait le Rav Kook par exemple, lorsqu'il revenait à la racine du mal qu'il y a chez les Rechaïm, de sorte qu'il arrivait à les sublimer et les transformer en bien. Mais ça, si vous voulez, c'est un autre sujet, d'ailleurs qui est traité par Rabbi Nachman aussi, pas seulement par le Rav Kook. Là, le Rabbi Nachman parle simplement dans des catégories générales. Comment faire pour confronter le mal? D'ailleurs, le Rav Kook aussi disait dans une de ses épîtres, si ceux qui veulent faire le tikkun des Rechaim ne sont pas comme moi, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des vrais tzadikim ou des tzadikim absolus, il vaut mieux qu'ils s'abstiennent, parce que ça risque de leur faire plus de mal que de bien, et c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu leur envoie dans leur esprit une inimitié envers les Rechaim. On voit parfois il y a des tzadikim qui ne veulent pas connaître les Rechaim, parce qu'ils se disent « je n'ai pas la force non seulement de les confronter, mais je risque d'être influencé par le rachat ». Et donc, ça dépend quel genre de tzadik on est. Alors maintenant, dans le paragraphe Vav, nous allons étudier quelle est la manière d'acquérir cette dimension, ce niveau de tzadik gamour. « Ve la volezé » et pour y arriver. « Le afrish ou le havdil ou le vatel ara me'atov » que faire pour séparer et se débarrasser et annuler le mal du bien. C'est-à-dire que le problème, c'est que le mal et le bien sont mélangés. Il n'y a pas, il y a des midrashim qui disent dans tout bien il y a du mal, dans tout mal il y a du bien. Alors ça complique beaucoup les choses. Alors comment le faire? Ou allier des Torah ou Tfila. Alors il y a pour cela deux éléments, l'étude de la Torah et la prière. La différence entre la Torah et la prière est la suivante. La Torah vient d'en haut, la prière vient d'en bas. D'accord ? Donc on peut attaquer le mal par le haut et par le bas, et donc ça réussit. Velimud à Torah. Alors c'est quoi l'étude de la Torah qui permet de dominer le mal ? Est-ce que toute étude ? Alors là, il va nous dire, yiyé, c'est-à-dire la loun le omka shel halakha, c'est-à-dire s'installer dans la profondeur de la loi, Hainu l'ilmod poskim, c'est-à-dire d'étudier les poskim. Kiyesh batora achizat hatov vehara, parce que dans la Torah, on traite de l'emprise qu'il y a entre le bien et le mal. Sheneechazim ibrinat isur veheter, le bien et le mal apparaissent dans l'interdit et le permis. Tame vetahor, l'impur et le pur. Kacher ou fasoul, ce qui est apte et disqualifié, Sheyesh Batora, qu'il y a dans la Torah, Vecholzman Sheno Mevarer Ha'alacha, ou Meorav Tovera. Et tant qu'on n'a pas étudié, qu'on n'a pas clarifié la Halacha, il y a un mélange de bien et de mal. Alors, il y a dans des livres de Moussard, je ne me rappelle plus lesquels, on dit que quand quelqu'un est tombé dans le mal, dans une Avera, il doit étudier les règles de halakha qui concernent cette avera. Et c'est ça qui permet de dominer. Pourquoi donc? Parce que quand on est attiré par le mal, c'est qu'on n'a pas, c'est qu'en vérité, on est attiré par le bien qu'il y a dans le mal. Et tant qu'on n'a pas fait la différence, qu'on ne sait pas à quel point ça c'est permis et à quel point ça c'est interdit, c'est alors qu'on risque de se tromper. Imaginez par exemple, je vais prendre un exemple tout simple, quelqu'un qui fait du lachonara, de la médisance. Alors il se dit, c'est très embêtant de ne pas raconter du lachonara, j'aime tellement. On dit que le lachonara du Shabbat après-midi permet de digérer. Alors pourquoi ne pas faire du lachonara? Et quand on étudie le lachonara, alors on comprend qu'on peut dire beaucoup de mal. Il y a du lachonara autorisé. Il y a même du lachonara recommandé. Et donc, si j'oriente mes énergies vers le lachonara autorisé ou même recommandé, c'est là que j'arrive à dénigrer et à me séparer totalement du lachonara interdit. Et donc, c'est pour ça que l'étude de la halakha est très importante, justement, pour réussir à faire la différence entre le bien et le mal. Et donc, s'attacher uniquement au bien et rejeter le mal. Oui, David.
Ah, alors, je suis désolé, je ne suis pas suffisamment bon en halakha. Il y a du lachonara qui est bon.
Oui, bien sûr.
Est-ce qu'on peut avoir un exemple?
Oui, par exemple, avertir qu'il y a un terroriste qui prépare un attentat. D'accord? Et le désigner, par exemple. C'est du lachonara. Je dis, il veut faire du mal. D'accord. Bon. C'était l'erreur de Guédalia qui n'a pas voulu croire qu'on voulait l'assassiner. Ve'alken et no yachol le'afrish ulvatel hara me'atov. Tant qu'on n'a pas étudié, on ne peut pas faire la différence et annuler le mal du bien. Vo bifrinat ve'doresh ra'a et vo enno. C'est lorsque l'on étudie le mal que on peut y arriver. Adacher ou non, pardon. Tant qu'on n'a pas fait ça, Doresh Ra'a, Tevoenu, celui qui réclame le mal, il arrive à lui. Adacher Umeayen Umvarer Absak Alacha, jusqu'à ce que l'on étudie profondément et qu'on clarifie la règle de la Alacha, Umevarer Asur Vamutar, et qu'on fasse la différence entre l'interdit et le permis. Dehainu Alide Limut Poskim, c'est-à-dire en étudiant les Poskim, les décisionnaires, Az. Azaï mafrish atov mehara, c'est là qu'on peut séparer le bien du mal. Ach lizkot lezeh asechel, mais pour arriver à cette intelligence qui nous permet donc d'étudier la halakha, shiyucha lalun leomka shel halakha, pour s'installer dans les profondeurs de la halakha, ou aliede a tefila, c'est grâce à la prière. Ki misham nimshach asechel, car c'est la prière qui attire l'intelligence. Intéressant. Et donc, il nous dit qu'en priant, on peut arriver à l'intelligence qui permet d'étudier la halakha, qui permet de séparer le bien du mal et donc de devenir le tzaddik gamour. Alors ça, ça a besoin d'être clarifié. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est la prière qui permet d'acquérir l'intelligence, alors que la prière est une expérience, pourrait-on dire, existentielle. C'est du vécu, c'est du sentiment. La prière n'est pas une étude. Or, il nous dit que pour accéder à l'intelligence nécessaire pour recevoir pour étudier la Torah, il faut d'abord passer par la prière. Alors, tout cela demande une clarification. Simplement, faisons, comme introduction, c'est qu'il y a deux formes d'intelligence. Il y a l'intelligence rationnelle habituelle. Est-ce que parle-t-il de la prière rituelle ou de l'itpo des doutes? Je ne sais pas ce que c'est que l'itpo des doutes, mais c'est probablement itbo des doutes. Oui, bien sûr, évidemment. Il parle ici de la prière, sous toutes ses formes, aussi bien la prière rituelle que la prière de l'itbo des doutes. Mais essayons de comprendre. Il y a deux formes d'intelligence. Il y a l'intelligence rationnelle habituelle, la logique, pourrait-on dire, et qui est utilisée par tout être intelligent. Sur Terre, il y a des hommes intelligents et ils se servent de leur intelligence. Mais il y a une intelligence qu'on peut appeler la sagesse. La sagesse, c'est tout à fait autre chose. C'est être relié à l'essence des choses. Or, l'essence des choses est en général inaccessible. C'est la raison pour laquelle les sages de Grèce s'appelaient philosophes, c'est-à-dire amants de la sagesse, mais non pas des sages. Le sophos, le vrai sage, est absent en Grèce. Il y avait des sophistes, pardon. Par contre, les sophistes, eux, prétendaient avoir une sagesse infuse, alors qu'en fait, c'était souvent des charlatans. Tandis que le vrai sage, le hacham, est celui qui est lié à l'essence même des choses. Et si vous voulez, ça vient, c'est une forme de prophétie. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on dit que hacham, sage, c'est la même valeur numérique, la même gématria que le mot chayim, qui veut dire la vie. Il y a un verset qui dit « Achochma tehaye be'alea » « La sagesse donne vie à ceux qui la possèdent ». Donc il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond. Cette sagesse ne peut être acquise qu'à travers la prière. Donc c'est ça que je voulais mettre d'abord en établir, que pour Rabbi Nachman, il y a deux formes d'intelligence. Il y a l'intelligence qui est acquise quand on a fait la prière, donc on a eu une expérience quasi prophétique, c'est alors qu'on peut se relier à cette forme de sagesse qui permet d'étudier la Torah et de faire la différence entre le bien et le mal. Voilà. Maintenant, on va passer au texte lui-même. Et je remercie beaucoup David Altar de ne pas avoir effacé le texte pendant que j'expliquais quelque chose extérieur au texte. Veha inyan kemo shekatu b'tikune zohar. Et cela est exprimé dans le Tikune Zohar. À propos d'un verset de Bereshit, Nahar yotze me Eden le'ashkot et Agan. Un fleuve sortait de l'Éden pour arroser le jardin. Alors, c'est quoi le Éden? C'est quoi le jardin? C'est quoi le fleuve? Alors, le Zohar dit Gan da Oraita. Le jardin, c'est la Torah. Kia Torah, nikret Gan, parce que la Torah est appelée jardin. Remarquez une chose intéressante, il ne dit pas d'où est-ce qu'il a été chercher tout ça. D'où est-ce qu'il sait que la Torah est appelée un jardin? Il ne le dit pas. Mais rappelons quand même une chose intéressante, le mot Gan veut dire, on traduit en général par un jardin c'est quelque chose qui est protégé. Le mot Magen, le bouclier, la Hagana, la protection, un endroit qui est protégé est appelé un jardin. Or, la Torah est protectrice. Elle protège ceux qui l'étudient. Venishmot Israël, Hame'ainim ou Mevinim Batorah. Et les âmes d'Israël, ceux qui approfondissent et qui étudient la Torah. Em Bechinat al-Sapin ou Deshain de Itribiou Bagan. Ce sont les herbes et les plantes qui grandissent dans le jardin. Ume'ainem Gdelim. Et qu'est-ce qui les fait pousser? Umi Marian, c'est la source d'un Chochma. C'est la source, c'est la sagesse. Kemo Shekatur, ainsi qu'il est dit dans le Shirachirim, Marian Ganim, la source des jardins. Umechan Mekabli Machochma Ve'asechel Shubirinata Marian. Et d'où est-ce que l'on reçoit cette sagesse, cette intelligence qui ressemble à la source? Umeatefila, c'est grâce à la prière. Kemoshe Katou, ainsi qu'il est dit, Umayan mi bet Hashem yetse, une source sortira de la maison de Dieu. Or, la maison de Dieu, c'est quoi? Watefila, la prière. Kemoshe Katou, ainsi qu'il est dit, ki beiti betefila, ma maison est une maison de prière. Donc, autrement dit, il y a une sagesse qui est accessible quand on se relie à la source. Et la source, qui est la sagesse elle-même, nous alimente lorsque nous faisons la prière et nous donne donc la Torah et nous transforme en herbes et en plantes qui sont dans le jardin. Vous, Birchinat, Mevi, Mikwar et la Poal. Et c'est ça qui nous fait sortir de la puissance à l'acte. Qui tefila, car la prière, Ubechinat, Chidusha Olam. La tefila ressemble au renouvellement du monde. Qui tefila ou shema'amin shesh mechadesh? Parce que quand on fait la prière, ça veut dire qu'on a la foi qu'il y a un créateur. Asher beyado la asot kirtsono leshanot ateva. Qui a la puissance de faire comme sa volonté de changer la nature. En effet, les philosophes qui, eux, ne savent pas faire la prière, ne pense pas que le miracle est possible et ne pense pas que l'ordre du monde peut être changé. Par contre, ceux qui font la prière ont la foi dans un Dieu qui est capable de changer son monde. Veo Bechinat Briab, comme disait Manitou, le Dieu des philosophes est incapable de fécondité. Veo Bechinot Briab Echoach, c'est la capacité de créer en puissance. Kemo Shekatoub, ainsi qu'il est dit, Kulam Bechochma Asita, car tous tu les as faits par la sagesse. Shu Bechinat Atefila, qui est en rapport avec la prière, chez Misham Yotze Mayana Chokma Kanal, d'où sort la source de la sagesse, comme nous l'avons dit plus haut. Va Torah, Ibechinat Bria Befoal. C'est-à-dire que si la prière c'est en puissance, la Torah c'est en acte. Que Moshe Katouv, ainsi qu'il est dit, va Eheye Etzlo Amor. Et j'étais chez lui comme un artisan. Uman Leshon Poel. L'artisan est celui qui passe à l'acte, qui béa Torah, nivra olam, parce que grâce à la Torah, le monde a été créé. Urshemit palela lezedavar, ou bufrinat chidush haolam, bufrinat bria bekoar. Et lorsque l'on prie, c'est comme si on renouvelait le monde, qui est une création en puissance, et ou bufrinat itorerut achorma, qui éveille la sagesse, shu batfila, qui est dans la prière. Et la source qui sort de la maison de Dieu, c'est la prière, car de là s'éveille la sagesse, et la Torah. Et de là, la source qui est la sagesse arrive à la Torah, et passe en acte. Et Mipiv dat udvuna, de sa bouche sort la connaissance et l'intelligence et l'entendement, qui be'a Torah ou yidgalut ha'chokhma, car par la Torah se révèle la sagesse, valedeze na'asa ma'ayan ganim, et c'est comme ça que ça devient une source des jardins, shama'ayan mashke adan, agan, lorsque la source alimente le jardin, validezé itriblou asavin uchain canal, qui fait pousser les herbes et les plantes, comme nous l'avons dit. Alors, une seconde. Alors, ici, donc, de résumer, c'est un peu ardu, mais c'est très simple en vérité. Donc, pouvez-vous représenter une source qui va alimenter un jardin, et le jardin va faire pousser des plantes. Alors, la source, c'est la prière, qui alimente le jardin, la source va devenir un fleuve qui va éveiller la sagesse, qui va alimenter le jardin qui est la Torah, qui va faire pousser des plantes qui sont les enfants d'Israël. Et c'est pour ça que nos sages ont dit, Hame'ayen bitfilato balide ke'evlev. Une seconde, là, ici, il y a une petite note de Yaakov Zerbib. Souvent, Rabbi Nachman écrit que la faute peut être un brouillement pour la tefila, me semble-t-il. Si oui, comment sortir de ce cercle, puisque la tefila ne pourra, à première vue, pas nous aider à combattre le mal? Très bonne question. La réponse est que Rabbi Nachman ne parle pas de celui qui a des péchés, il parle ici du tzaddik. Mais il s'agit du tzaddik qui n'est pas encore tzaddik gamour. Donc, le tzaddik fait la prière une fois qu'il est déjà débarrassé des péchés. Mais il n'a pas encore la capacité d'être le tzaddik gamour, et donc il va faire la prière pour devenir tzaddik gamour. Comment le pourra-t-il? En étudiant la halakha. Comment est-ce qu'il pourra étudier la halakha? Grâce à la Torah, grâce à la sagesse, grâce à sa prière. D'accord? Donc il ne s'agit pas de la prière de n'importe quel individu, il s'agit ici de la prière du tzaddik. Maintenant, revenons au texte des Chachamim. Ameayen bitfil. Merci à Yaakov, ça nous a permis de bien comprendre ce qu'il dit. Ameayen bitfil. Bitfilato, balide ke evlev. Celui qui examine sa prière arrive à une douleur dans son cœur. Chez Nehemar, tohelet emushacha machlaklev. Parce que si on a une trop grande attente, ça rend le cœur malade. Maitakanate, et comment pourra-t-il se réparer? Il y a un sok batora. Il devra étudier la Torah chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Etzraim Tava Ba'a, l'arbre de vie est un désir qui arrive. Vezeu Sheamarnu, qui batefila adayin bekoach, c'est-à-dire lors de la quand on a prié seulement en puissance, mais nous yotzei la poa la tsheba et la Torah, et ça ne passe à l'acte que lorsqu'on en arrive à la Torah, shi b'chinat briya befoal, qui est le passage à l'acte, ve'az na'asa bakashato alidei sheyotzei mikoach et la poal, et donc sa demande est accomplie lorsqu'elle passe de la puissance à l'acte. Ça, donc, c'était le principe que pour arriver au niveau du tzadik gamour, qui a le droit de s'attaquer au Rechaïm, parce que il a réussi à dominer totalement ses tendances au mal, c'est alors que ça peut se faire à travers l'étude qui se fait à travers la prière. Et, vehaïnu dirtiv, et c'est pour ça qu'il est dit, mais ça, c'est impossible de le savoir puisque c'est pas encore devant nous, c'est pour ça qu'il est dit, alors là, c'est le verset dont nous avons déjà parlé. Venahar yotze me'eden lashkot et tagan. Un fleuve sortait de l'Éden pour arroser le jardin. Alors maintenant, il rajoute la suite du verset. Umisham yiparet ve'aya le'arba arashim. Et depuis là, il se sépare pour devenir quatre têtes. C'est-à-dire, il y a un fleuve qui va se séparer en quatre. Alors, c'est quoi cette séparation en quatre? Alors, pour bien comprendre, il va tout reprendre. Eden ou bechinat atefila ki Eden adain lorata. La prière, Eden, c'est la prière. Parce que Eden, c'est ce qu'on n'a jamais vu. Kemo, shamru, rabotenu, zoranura, comme l'ont dit les sages. Chez eux, bechinat atefila, shulemala minateva. Parce que c'est comme la prière qui est au-dessus de la nature, qu'elle est dit atefila, mechane ateva. Parce que par la prière, on change la nature. Chez Eou Bichinat Eden Adain Ain Loraata, qui est comme le Eden, aucun œil n'a vu, qu'il est mala meateva et la nushum tfisa, parce qu'au-dessus de la nature, nous n'avons aucun entendement. C'est-à-dire, les yeux de l'intelligence n'arrivent pas au Eden. De même qu'on n'arrive pas à rationaliser la prière, si vous voulez. C'est-à-dire, la prière étant quelque chose qui dépasse le rationnel, donc c'est au-dessus des yeux. Ve'ainu ve'nahar yotse me'eden. Donc, le fleuve qui sort, ça sort de la prière, qui est la source qui sort de la maison de Dieu. Est-ce que la tefila, c'est Eden ou Mayan, demande Philistia. La prière elle-même, c'est le Eden. Et le Mayan, c'est l'éveil de la sagesse. Et le Gan, le jardin, c'est la Torah. Et lorsque la source qui vient de la sagesse, qui vient de la prière, qui arrive au jardin, qui est la Torah, c'est alors que grandissent les plantes et les herbes qui sont les âmes d'Israël, comme marche le délim de la Gan, qui grandissent dans le jardin, ou mevini ou maskilim la Torah, et qui comprennent et ont l'entendement de la Torah. Et c'est alors qu'il peut s'installer dans la profondeur de la halakha pour clarifier la loi. L'interdit, le permis, le pur, etc. Et c'est comme ça qu'il sépare le bien du mal. Et c'est ça que ça veut dire, et de là il se sépare. C'est quoi il se sépare? Qui a l'idée nifra d'ara marba yesodot, l'onisha rakatov. Car c'est ainsi que le mal se sépare des quatre éléments, il ne reste que le bien. Ve'aza ve'aya le arba rachim, et c'est alors qu'il va devenir quatre têtes. C'est quoi les quatre têtes? Et marba otiot havaya, ce sont les quatre lettres du nom de Dieu. C'est-à-dire, on vous rappelait que les quatre mauvais caractères, les défauts de l'homme viennent des quatre éléments, mais les quatre éléments viennent des quatre lettres de Dieu. Quand on arrive à séparer le mal du bien qu'il y a dans les quatre éléments, ça redevient les quatre lettres de Dieu. Shehem Shoresh Tov Shelarba Yesodot Kanal, qui sont la bonne racine des quatre éléments, comme nous l'avons dit. Et tout cela se retrouve dans le tzitzit. Ezeu bichinot arba tzitzit. Et c'est ça qui est figuré par les quatre coins du tzitzit. C'est-à-dire que le chiffre 4 signifie donc les quatre lettres de Dieu, du nom de Dieu, yud kei vav kei. Ki arba tzitzit, les quatre tzitziot, em bichinat arwa chaim, C'est ça le souffle de vie. Moshe Katouf, Koamar Hashem, Merba Ruchot, Boya Ruar. Ainsi qu'il dit dans Ézéchiel, ainsi parle l'Éternel, des quatre souffles vient le vent. Contrairement à la question de Boujna qui disait d'où vient le vent, eh bien la réponse est que ça vient des quatre coins. C'est-à-dire du tzitzit. Chez Alideze, Machni, Marouar, Sehara, et c'est ce souffle qui permet de dominer le souffle de tempête. Chez Ouarouar, chez la Mitnagdim, qui est le souffle des opposants, Acholkim, à la Tzadikim, à Amitim, qui s'oppose au vrai Tzadikim. Alors là, il y a une allusion peut-être acerbe contre les Misnagdim, c'est-à-dire les opposants des Chassidim. Qui sont considérés comme en fait le Rav de Klipa, le Rav de la Klipa, chez Mamshichim, Arichut, Ruach, chez la M et Rav de Klipa, qui reçoivent la longueur de souffle, leur longueur de souffle du Rav qui est dans l'écorce, Shu Bechinat Esav Issaïr Kanal, qui est comme Esav, qui est l'homme velu. Alors, on avait vu que le mot velu, sa'ir, c'est la même racine que le mot se'ara, la tempête. Ve'alkent, la tempête est forte au moment où elle se produit, mais elle est passagère. Ve'alkent, tzitzit ou leshon se'ar, c'est pour ça que le tzitzit est appelé cheveux. Kemo shekatu, va'ikacheni betzitzit roshi, ainsi qu'il dit, il m'a pris par le tzitzit de ma tête. Il s'agit là-bas de sa touffe de cheveux. Kaliadam ichna esav ir ishsaïr, car grâce aux quatre tzitziot, c'est alors que Esav, qui est l'homme velu, est dominé. Virchinat war sehara, lui qui est le souffle de tempête. Veze virchinat talit lavan, et c'est tout cela est appelé le talit blanc. C'est-à-dire, il y a deux sortes de talit, il y a le talit blanc et le talit rouge. Le talit blanc, c'est celui du tzadik gamour, et le talit rouge, c'est celui du rav des klipa, du maître qui est dans l'écorce. Chenit ate, alors où est-ce qu'on a trouvé cette histoire d'un talit blanc? C'est-à-dire, blanc, en fait, c'est blanc et bleu, mais du temps de Rabbi Nachman, on n'avait pas encore retrouvé le techelet, donc le tzitzit était entièrement blanc. Shenit atef akadosh baruchu vesider shlosh esre midot. On dit dans la Gemara que le saint béni soit-il s'est enveloppé d'un talit lorsqu'il a révélé les 13 attributs de miséricorde. Ki shlosh esre midot, parce que les 13 attributs hem bechinat haruach haim de kedusha kanal, c'est ça le souffle de vie de la sainteté. Vezeu bechinat talit. Et c'est appelé Talit, Shuar Bakanfot, qui a quatre coins, Bechinat Aruach Marba Aruchot Kanal, comme le souffle qui vient des quatre coins, Vehaynu Talit Lavan, qui est le Talit blanc. Hefer Bechinat Ruach Diklipa Bechinat Esav Shuad Muni, contrairement au souffle de l'écorce qui vient de Esav, qui est rouge, Kulo Kaderet Tsehar, entièrement comme une pelisse, une pelisse velue. Ou Firesh Rashi, Ketalit. Et Rashi a dit, il était comme un talit. Ketalit d'Aïka, précisément comme un talit, Bechinat Talit de Klipa, qui est le talit de la Klipa, Shehu Bechinat Talit Adom, qui est un talit rouge. Remarquez une chose intéressante, c'est que dans la capitale de Edom, Rome, les cardinaux sont vêtus d'un vêtement rouge. Chez Mishab, Nimshach, Haruach, chez la Rechaim, car c'est de ce talit que vient le souffle des Rechaim, et donc leur force, va l'aider talit Gdusha, Shuvrina talit Lavan, et grâce au talit de la sainteté qui est le talit blanc, Machnim, Oto, on peut le dominer, qui Misham, Nimshach, Haruach, Haim, Gdusha, Shuvrina, Shosemdel, Shalachamim, parce que c'est de là que vient le souffle de vie de la sainteté, qui relève des 13 attributs de miséricorde. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu s'est enveloppé d'un talit blanc. Vesider bifne Moshe, shlosh esrim midot shel rachamim, et a présenté devant Moshe les 13 attributs de miséricorde qui alliédait talit d'Ikdusha shoprinat makif, car grâce au talit de la sainteté qui ressemble au makif. Makif, c'est-à-dire la lumière enveloppante. Shu bichinat arwa chaim, qui est le souffle de vie, bichinat sovev sovev oler arwa, parce qu'il est dit, le souffle tourne tout autour. Nichna talit d'Iklipa, bichinat arwa d'Iklipa, c'est ainsi qu'est dominé le talit de la klipa, qui est le souffle de la klipa, c'est-à-dire du mal. C'est-à-dire, remarquez une chose importante, donc le talit enveloppe, il y a une lumière enveloppante, en hébreu makif. Makif veut dire également prêter, c'est-à-dire renvani makif, l'épicier, celui qui a un magasin, fait crédit. Makif, c'est faire le crédit. C'est-à-dire, il y a des choses que je ne mérite pas encore, je n'ai pas de quoi payer, mais un jour j'aurai de quoi payer, donc on me fait crédit. Eh bien, c'est ça la puissance d'Israël. C'est-à-dire que la puissance d'Israël, c'est ce qui attire la vitalité de l'avenir. Souvent, on se dit que dans le judaïsme, on se base sur des événements du passé, la sortie d'Égypte, le don de la Torah. Mais en vérité, c'est le Rav Kook qui le dit, on tire notre force non pas du passé, mais de l'avenir. C'est ça le makif. C'est pour ça que Job dit, quand on tient les coins de la terre, on rejette les méchants de la terre. Car grâce à ces quatre coins, c'est-à-dire le talit, qui est le souffle de vie de la sainteté, qui est les quatre têtes qu'on avait vues plus haut, c'est comme ça que sont rejetés les Rechaim, comme on l'a dit, Mashpil Rechaim de Haaretz, qui abaisse les Rechaim jusqu'au sol, Rachet et Vot, qui sont les initiales de Esh Ruach Maim Afar, qui sont les initiales des quatre éléments, comme nous l'avons dit plus. Alors maintenant, on passe directement à un résumé de tout ce qui a été dit à travers une histoire de Rabba Bar Bar Chana, un conte de Rabba Bar Bar Chana. Vous vous rappelez que les premiers chapitres du Likutei Moharan sont des interprétations de ces récits bizarres de Rabba Bar Bar Chana qu'on trouve dans la Gemara. Comment tirons-nous nos forces du futur? Meshing? Non, c'est simplement le fait que c'est l'avenir qui est l'avenir. C'est-à-dire, nous savons, Mashiach. Oui, le Mashiach fait partie de l'avenir, mais il y a également la résurrection des morts qui fait partie de l'avenir. C'est-à-dire, ce qui nous permet de tenir pendant le temps de l'exil, c'est l'espérance de l'avenir. Et les femmes qui n'ont pas de talit, ça n'a aucune importance. Celui qui a un talit, c'est le peuple d'Israël. C'est pas forcément les hommes ou les femmes. C'est vrai que la mitzvah est accomplie par les hommes. Elle est accomplie pour tout le monde. Et donc maintenant, nous allons revenir à l'enseignement de Rabba Bar Bar Chana. Vezeo Perush, Amar, c'est ça que veut dire, Amar Rabba Bar Bar Chana. Amar li haou taya. Rabba Bar Bar Chana disait, un bédouin m'a dit, Taïra, heureusement, Socher Ishmael, c'est-à-dire un commerçant arabe. Ta ve'ahvelach mete midbar. Viens, je vais te montrer les morts du désert. Alors, c'est quoi les morts du désert? D'habitude, on a l'habitude d'expliquer qu'il s'agit de la génération du désert du temps de Moshe. On va voir que Rabbi Nachman comprend ça de manière très différente. Azli ve'chazitinu, j'ai été et je les ai vus. Vedamu kemandim vasmu, ils ressemblaient à des ivrognes. Veganu aparkid, ils étaient couchés sur leur dos. C'est-à-dire qu'ils avaient le visage vers le haut. Veava zekifa birke dehad minayu, l'un d'entre eux avait son genou replié. Veail taya tute birke, et un bédouin pouvait passer sous ce genou, Kirachiv gamla ou skifar umche, quand il était quand il enfourchait un chameau et qu'il tenait sa lance vers le haut. Velo nagarbe, il ne le touchait pas. C'est-à-dire, le genou était tellement haut qu'on pouvait passer sous ce genou en enfourchant un chameau et en tenant une lance. Pasker hada karna de trelta de had minayu. J'ai coupé le coin du techelet, c'est-à-dire de l'azur, du vêtement d'un d'entre eux. C'est-à-dire, si déjà je suis là, il va couper donc un des quatre coins des tzitziot, de ces morts du désert. Vela avait kamistagelan. Et alors nos bêtes ne pouvaient plus avancer. Amarli, alors le bédouin m'a dit, Dilma shakalt mide minayu, peut-être que tu leur as pris quelque chose. Digmire, parce que nous savons, des mains des shakil mide minayu la mistagele, que celui qui leur prend quelque chose ne peut plus avancer. Azli a adarte, alors j'ai été leur rendre, veadar mistagelan, et alors j'ai pu continuer à marcher. Bon, très belle histoire. D'accord? Mais elle veut dire quoi cette histoire? Eh bien, cette belle histoire, d'après Rabbi Nachman, elle dit exactement tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Alors, voyons comment. Ta verhvelach mete midbar. Viens, je vais te montrer les morts du désert. C'est quoi les morts du désert? Haïnu shir alo areshaim. Il leur a montré les méchants. Sheinam devekim batzadikim. Ceux qui ne veulent pas s'attacher aux tzadikim. Vehem nikraim mete midbar. Et c'est eux qu'on appelle les morts du désert. Pourquoi? La Gemara dans le traité de Yevamot nous dit que pendant le temps où Israël était dans le désert, le vent du nord ne soufflait pas. On avait vu que le vent du nord, c'est le souffle de vie de la sainteté, qui était comme le vent du nord, c'est-à-dire le vent caché, qui soufflait à travers la lyre de David. Varechaim alalu shenam vekim batzadikim. Or les méchants qui ne veulent pas s'attacher aux tzadikim, ve'en laem aruach dikdusha, et qui n'ont pas le souffle de la sainteté, ve'en bechayehem kiruim metim, qui sont appelés de leur vivant morts. Ve'alo mechan magia laem shlemut achisaron. Et il lui a montré d'où est-ce qu'il tirait la capacité de remplir leur manque. Vous rappelez que c'était la grande question que posait Rabbi Nachman. Comment se fait-il que les Rechaim, qui ne sont pas liés au souffle de vie des Tzadikim, réussissent? Ils arrivent à remplir ce qui leur manque. Et c'est ça qu'il va lui montrer. Et c'est, il lui a montré qu'ils avaient l'air d'être des ivrognes. Peresh Rabbeinu Shmuel, et comme dit le Rashbam dans son commentaire, Kishtuye Yain, comme ceux qui ont bu du vin, Bifrinat Esav Admoni, donc il ressemble à Esaü, qui est rouge, Sheu Arav di Klipa, qui est le rave de la Klipa, Asher Misha Mekablim Areshaim Aruach Haim Shelem Lashim Achisaron, d'où les Rechaim reçoivent leur souffle de vie qui leur permet de remplir leur manque. Vezeu veganu aparkid, et c'est pour ça qu'ils étaient allongés sur le dos. Peresh Rabbeinu Shmuel, le commentaire du Rashbam, penehem le mala, ils ont le visage vers le haut. Penehem, visage, zebuchinat aruar, c'est-à-dire leur souffle. Aynu akarat penehem, ainsi qu'on avait vu la ressemblance de leur visage. Vehaynu le mala, et c'est pour ça que le visage était orienté vers le haut. Qui a roar shelahem gadol et ficha, parce que leur souffle est grand momentanément. Adacher ole atzlachatam le mala, à tel point qu'ils réussissent vers le haut. C'est-à-dire, grande est la réussite des Rechaim, momentanément. Bechinat kol sorirav yafiach bahem, ainsi qu'on avait vu le verset qui disait, tous ses ennemis soufflent en eux. Veava gava birke dechad minayu, et le genou de l'un d'entre eux était très haut. Zemore al godel ha'atzlacha shel ha'reshaim. Cela montre à quel point les reshaim réussissent grandement. Ki he'ader ha'atzlacha, Nikra birkaim kochlot. C'est-à-dire, quand on ne réussit pas, ce sont les genoux qui fléchissent. Ugva birkei, et ceux dont le genou est haut, haïnu ruma atzlacha, ça veut dire qu'ils réussissent grandement. Oui? Vas-y, David.
Arab Essav, il n'était pas tzadik gamour?
Essav? Non, il est le Rav de Klipa.
Oui, mais il n'a fait aucune avéra, non? Il n'y a pas quelque chose comme ça que Essav, il n'a pas eu une seule avéra?
Rien du tout. Rav Yaakov était-il un tzadik glamour et pourtant il a eu peur lors de sa rencontre avec Essav? Alors, un tzadik glamour, c'est probablement un tzadik gamour. Ça veut dire que Yaakov n'était pas encore tzadik gamour lors de sa rencontre avec Essav. Il le dit d'ailleurs de manière très claire. Im Lavan Garti, j'ai résidé chez Lavan. Rachin dit Taryag Mitzvot Shamarti, j'ai observé les 613 commandements. Mais Va'echar Ad Ata, je me suis attardé jusqu'à maintenant. Et c'est ce retard qui fait que Yaakov n'est pas encore un tzadik glamour, ni un tzadik gamour. Il parle de son époque, il voit les dangers de l'époque. C'est vrai, il voit effectivement les dangers de l'époque. Vezehu, ve'ayil ta'a tout est birke, et il dit le bédouin pouvait passer sous le genou. Alors c'est quoi le bédouin? Haïnu atzadik. C'est-à-dire tout endroit où il dit ta'a, c'est-à-dire le bédouin, il s'agit du tzadik, shenikra ta'a, qui est appelé Taïa, que Moshe Perech Rabbeinu Shmuel B'chol Makom, comme l'a dit le Rashbam, à chaque fois qu'il en est question, Soher Ishmael, le marchand arabe. Ves Soher, or le mot marchand, Hu Bechinat Aruar, c'est en fait le souffle. Que Moshe Katouv, Gamour Pardon. Mais non, Glamour Pardon. Que Moshe Katouv, Sovev, Sovev, j'ai le droit de faire des vannes comme elle. Bon. Sovev, sovev, olech, haruach, puisqu'il est dit, le souffle tourne autour. Or, le mot soher, qui veut dire marchand, c'est en araméen, ça veut dire tourner. Ve'aynu atzadik shemekabel haruach me'akdusha. C'est donc le tzadik qui reçoit son souffle depuis la sainteté. Ve'zehu soher Ishmael, c'est lui, le marchand arabe, al-shem, kishama Hashem elyonier. Dont il est dit, parce que Ishmael, l'ancêtre des Arabes, il s'appelle Ishmael parce que Dieu a entendu ta misère. Ki atzadik shomea kol ha'anachot shel hadvikim bo. Le tzadik entend tous les soupirs de ceux qui sont attachés à lui. Ki mimenu totzot chaim lechol echad, car de lui vient un souffle de vie pour chacun. Ki hu ish asher warbo, parce qu'il est l'homme qui possède le souffle, comme on l'a dit plus haut. Kirachiv Gamla, lorsqu'il est installé sur un chameau. C'est quoi le chameau? Pechinat Gomel Nafsho Ishresed. Gamal, le chameau, veut dire également celui qui pourvoit à son âme, qui bonifie son âme, Zebrinat Rafresed Kanal, qui est celui qui est plein de bonté. Uzkif Rumcha, et il a sa lance élevée, c'est il tient la lance, Romach, c'est la lance, ou Bechinat Ruach Mem. Ce sont les lettres de souffle de Mem. Mem, c'est, ça veut dire Maim, l'eau. Bechinat Veruach Elohim Rachevet Apenea Maim. Ainsi qu'il dit un souffle divin plané sur la face des eaux, Hainu HaTorah, qui est la Torah. Et pourquoi la Torah est appelée Maim? Shenitna Le Arbaim Yom, parce qu'elle a été donnée en 40 jours. 40, c'est Mem. Shesham Aruach Haim Kanal, où se trouve le souffle de vie, comme l'avons dit, Klomar. Chez Atzadik, Ayalo Bechinat Aruach Shemkabel Atorah, mais Atorah Kanal, c'est-à-dire le Tzadik reçoit en lui le souffle qui lui vient de la Torah, Veim Kolze, et malgré tout cela, c'est-à-dire le Tzadik est plein de Gmilut Hasadim, il est bonifiant, et il porte la Torah, c'est-à-dire la lance. Veim kolze nahit techot birke, et malgré tout, il passe sous le genou, tachat atzlachat arasha, en dessous de la réussite du méchant. Birchinat kebala rachat tzadik menu. Ainsi qu'on a vu que le rachat peut engloutir celui qui est plus grand, celui qui est plus tzadik que lui. C'est-à-dire, on a vu que c'était le tzadik She'eno Gamour. Donc, ce qu'a vu Rabba Barbachana dans sa vision, Il voit donc le tzaddik qui passe sous le genou du racha. Ça veut dire que le racha réussit et le tzaddik n'arrive pas à le confronter. Rekapaske karna ditrelta dechad minayu, et il a coupé un coin de techelet du tzitzit de l'un d'entre eux. Haynu shepasak veshiber amidara me'echad marba yesodot. Ça veut dire qu'il a réussi à briser un des défauts qui venait d'un des quatre éléments. Shigbir vimshich haracha latzmo shuatzinor shelo, que le racha avait réussi à attirer à travers sa conduite, vezeu veka paske karna ditrelta, c'est pour ça qu'il est dit qu'il a coupé un coin de techelet, aynu shepasak achat miatzitzit shelem, c'est-à-dire qu'il a réussi à couper un des tzitziot de ces méchants, sheze bechinat ma shepasak veshibar ara amidara shelem, shuatzinor shelem, c'est-à-dire qu'il a réussi à briser le défaut qui est la conduite de l'un d'entre eux, qui colle à Midotrot, Misharim, Arba Yisodot, Shershon, Arba Tzitzit, Kanal, parce que tous les défauts viennent des quatre éléments qui ont pour racine les quatre coins du Tzitzit qu'on avait vu plus haut. Vela Mistagelan, il n'a pas réussi à avancer. Klomar, Sheafal Pirren, Lo Altalo, Lashpil et Tarasha Velatset, Mitahad Birkav, c'est-à-dire qu'il n'a quand même pas réussi à abaisser le méchant et sortir d'en dessous de ses genoux, c'est-à-dire l'empêcher de réussir. Afalpish et Pasak Veshibar Amidara chez la Racha, bien qu'il a réussi à s'attaquer et à détruire le défaut du Racha chez Nimshechet Marba Isodot qui vient des quatre coins, des quatre éléments, chez Shorcha Marba Tzitzit qui ont pour racine les quatre Tzitziot, chez Zebrinat Veka Paske Karka Ditrelta Dramina Yukanal, qu'on avait dit être coupé le morceau de Techelet d'un des quatre. Et malgré tout, il ne pouvait pas l'abaisser et sortir de ses genoux, Birkinat, mais la Mistagelan, ça veut dire qu'il ne pouvait pas avancer chez Perucho, ce qui veut dire chez Lo Ayu Yocholim Latset Misham, et qu'il ne pouvait pas sortir de là-bas. Donc tout ça, c'est le tzadik chez Enogamo. Haynu Kanal, Amarli Dilma Shaklit Midei Minayu. Alors donc, l'accompagnateur de Rabba Barbachana lui dit: peut-être que tu as pris quelque chose de chez eux. Haïnu, Shema yesh lecha ar echad marba yesodot shelo tikanta bishlemut l'afrid menu ara legamre. Peut-être que tu as en toi un des quatre éléments et que tu n'as pas totalement réussi à te débarrasser du mal qui était mélangé. C'est-à-dire, on a vu que le tzaddik qui possède encore la capacité de faire le mal, même s'il ne le fait pas, ne peut pas s'attaquer au rechaïn. Ve'alken lo mistagelan, c'est pour ça qu'il ne peut pas avancer. Et à me voir l'aile, comme nous l'avons expliqué plus haut, chez Kolzeman, chez Nisharbo, Eze, Achiza, Be'alma, Me'ara, chez les Emita. C'est-à-dire, tant qu'il lui reste une emprise aussi légère que possible que du mal, d'un des défauts, et No Yachol, Achnia, et Aracha, il ne peut pas dominer le méchant. C'est-à-dire, si je m'attaque à quelqu'un, mais que j'ai en moi-même cette tendance au mal, je ne peux pas le dominer. Vezeu. C'est pour ça qu'il est dit, Dilma Shaklit Mide Minayu. C'est peut-être que tu as pris quelque chose d'eux. Shema la karta ktsat mehen. Peut-être que tu as pris d'eux quelque chose. Haynu Shema Yeshbecha Adain Ezeachiza Meze Midara Shel Arishaim. Peut-être qu'il y a en toi encore une emprise quelconque des défauts des Arishaim. Shela karta Leatzmecha Eze Mida Vetaava Shelahem. Valken Omistagelan. Tu as pris d'eux une tendance et qui t'empêche d'avancer, et c'est pour ça que nous ne pouvons pas en sortir, d'aiguirer des mains des chakles, midemina ou la mistagele, parce que nous savons que nous avons appris que celui qui prend de quelque chose ne peut pas avancer, à Inu Kanal, chez Shanu Kabbalah, nous avons comme tradition, chez Kolmi Shelokea, Leatmo, Ezedvarta, Ava, ou Midara, chez la Rechaim, que tout celui qui prend un désir ou un défaut des Rechaim, Aïnou, Sheyesh Boada, Yeneze Achiza, Mamidot, Raot, Shelahem, et nous, Yachol, Atset, Mehou, Lachniam, Kanal. C'est-à-dire, celui qui prend quelque chose de leur Midot ne peut pas les dominer. Azlea, Adarte. Et donc, je l'ai rendu. Ça veut dire quoi, j'ai rendu? Aïnou, Sheyerzarti, Mashaya, Etzli, Zemeat, Achiza, Tara, Mamidot, Raot, Shelahem. Yerzarti, Vefrashti, Memeli. Et donc, c'est pour ça que ce que ça veut dire, quand il a rendu, ça veut dire qu'il a accompli sa teshuva. Il s'est débarrassé totalement de l'emprise du mal qui était encore chez lui. והדר מסתגלן, et après nous avons pu avancer, שעזלתה בידינו לצאת מתחת ברכיו להכניעו להשפילו, c'est alors que nous avons pu sortir d'en dessous de ses genoux, et le dominer, et l'abaisser, שכם voir l'éel שצדיק גמור, שמפריש עצמו, מעצמו כל אחיזת הרע שלהם לגמרי, que le צדיק absolu, qui se débarrasse de toute emprise du mal, ou yachol latzet mehem, ou l'achniam, ou l'achpilam, peut se débarrasser d'eux, et les abaisser, et les vaincre. Bifrinat, mashpil, rechaim, et deharetz, canal. Ainsi, nous avons vu, plus haut, à propos du verset, il abaisse les rechaim jusqu'au sol. Alors là, il y a une petite question de Yaakov Zerbib, qui est que tout cela me semble très pessimiste. Non, si je ne suis pas parfait, je ne peux pas réparer que moi-même. Je ne peux réparer que moi-même. Oui, bien sûr, mais ce n'est pas du tout pessimiste. Ça veut dire qu'on te fait confiance que tu peux te réparer et à partir de là, réparer les autres, il n'y a pas de problème. Il vient simplement un ordre de la réparation du monde. D'accord ? Mais non, ça veut dire que souvent, quand on est attaqué à quelque chose, on ressent en soi-même une attirance pour le mal que l'on veut dominer. C'est ça qu'il faut arriver à vaincre. D'accord ? Maintenant, à partir de là, tout s'explique, toute la paracha de la haftara de Hanouka. Attendez. Alors, ça, nous le verrons plus tard. Oui.
Ça s'est coupé à Hanouka, haftara de Hanouka, et on n'a pas entendu la
fin. Oui, et que nous pourrons, la haftara de Hanouka, que nous pourrons comprendre à partir de ce que nous avons étudié la prochaine fois, puisqu'il est déjà l'heure de la fin du cours. Shalom.